Vous écoutez RTL. h 30, 13h30, le journal inattendu de Jean-Dominique Sénard
avec Bernard Poirette sur RTL.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le journal inattendu de Jean-Dominique Sénard. Jean-Dominique Sénard, le président de Michelin, premier fabricant mondial de pneumatiques. Monsieur Sénard, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté l'invitation de RTL. Ce journal inattendu, vous le savez, est quelque peu perturbé, voire impacté par la mort de Fidel Castro, dont il sera largement question dans la première partie de l'émission, et que vous pourrez bien entendu commenter, car c'est aussi la règle du journal inattendu. Autre règle, vous le savez aussi, Jean-Dominique Sénard, le jeu de l'autoportrait de l'invité. Les auditeurs vous connaîtront mieux, à coup sûr, à 13h30. Mais d'ores et déjà, vous qui êtes le patron de Bibendum, que pouvez-vous nous dire à votre propos? Qui êtes-vous, monsieur Sénard?
C'est toujours difficile de parler de soi-même. Je pourrais dire que, au fond, j'ai eu plusieurs chances dans ma vie et c'est comme ça que je me suis forgé ma personnalité. La première, c'est que j'ai eu la chance d'avoir des parents diplomates. Mon père était diplomate, souvent à l'étranger. J'ai vécu très jeune en Égypte. Et j'ai pris goût très vite, grâce à lui, aux relations internationales. Et ça, ça a beaucoup compté. Je me souviens de la guerre des six jours, où je passais mon BEPC dans une cave, sous le couvre-feu. Enfin, c'était quelque chose d'incroyable. Après mes études, j'avais cette volonté de travailler dans l'industrie. Une idée fixe, un peu comme ça. Je voulais pas être banquier. J'ai rien contre les banquiers, mais enfin, je voulais pas travailler. Alors,
Tout le monde ne peut pas être banquier.
Et finalement, j'ai été assez gâté, puisque même si j'ai commencé à travailler chez Total par le biais des affaires financières, j'ai commencé lors d'un bureau. Il y avait Christophe de Margerie, d'ailleurs, qui avait 2-3 ans de plus que moi et qui m'avait dit, Jean-Dominique, tiens, il y a des additions à faire, alors commence à faire des... J'ai fait ça pendant des mois avec lui.
Margerie qui est devenu le patron de Total. En
fait. Voilà, c'était cocasse d'ailleurs après de retrouver ça. Et puis après Total, il y a eu l'aventure Saint-Gobain où j'ai découvert l'Allemagne en fin de parcours. Et là, ça m'a marqué beaucoup parce que j'ai vécu dans un Vorstand d'entreprise française en Allemagne. Mais j'ai compris la force de ce que représentait l'organisation économique et sociale allemande, et ça ne m'a jamais lâché. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui m'a marqué profondément, et depuis, je ne cesse d'essayer de retrouver, en quelque sorte, ce modèle dans notre pays. Et puis après, il y a eu l'aventure Pechiney. Et après quelques années de direction financière de Pechiney, j'ai plongé dans l'univers industriel pur, puisque j'ai dirigé l'aluminium primaire du groupe, avec des expériences internationales incroyables et vraiment la vraie découverte de ce que je savais déjà, c'est-à-dire la chaleur humaine qu'il peut y avoir dans l'industrie lourde et cette fierté des grandes technologies, en l'occurrence de grandes technologies françaises. J'ai eu aussi cette aventure terrible de la fin de Pechiney, où j'ai eu à prendre en main l'entreprise lorsqu'elle avait été soumise à l'OPA hostile. J'ai appris à ce moment-là, vraiment, même si je n'avais pas forcément besoin, mais je l'ai appris, ce qui était une souffrance humaine dans une entreprise qui était prise dans une activité hostile de cette nature. C'est quelque chose qui vous marque à vie. J'ai vécu une année très très difficile à m'occuper des gens et à m'occuper de sauver, de ce que je pouvais sauver de la technologie et des personnes de Pechiney. Ça m'a marqué profondément. Après, un peu la providence, Michelin. Je suis rentré chez Michelin un peu par hasard. Avec Édouard Michelin, Michel Relier qui était là aussi. Je suis rentré chez Michelin comme ça, sans signer le moindre papier, en toute confiance, etc. Et vous savez, c'est des choses qui, là aussi, vous marquent beaucoup. Et depuis, dans cette entreprise, j'essaye, tant que je peux, d'incarner ces valeurs. J'essaye de faire que cette entreprise soit totalement cohérente, avec une immense cohésion des équipes dans le monde. Et j'essaye de tenir l'équilibre entre les exigences de court terme, mais en même temps la vision de long terme. Et ça, vous savez, c'est pas facile aujourd'hui pour un dirigeant économique. Et puis au fond, voilà, j'essaie de faire de mon mieux pour plonger Michelin dans l'aventure du 21e siècle avec toutes ses forces et ses
traditions. Et c'est pour ça qu'on vous a demandé d'être l'invité du journal inattendu, Jean-Dominique Sénard, parce que justement, vous avez une perception de ce travail de capitaine d'industrie qui nous semblait intéressante à développer dans ce monde de brut dans lequel nous vivons. Voilà. Et on aura le temps d'en reparler tout à l'heure.
C'est assez bien résumé.
Sans aucun doute. Merci pour cet autoportrait, Jean-Dominique Sénard, invité du journal inattendu, donc de RTL. Mais tout de suite, la partie actu, et Dieu sait qu'elle est lourde aujourd'hui, l'actualité. Et puisqu'il est 12h34, je cède la parole à Philippe Robuchon. Vous allez bien sûr, Philippe, bonjour, commencer par la mort hier soir à La Havane de Fidel Castro. Il avait 90 ans.
Oui, bonjour Bernard, bonjour Monsieur Sénard, bonjour à tous. C'était l'un des derniers géants du XXe siècle, le père de la révolution cubaine. Il aura dirigé son pays pendant 5 50 ans, il aura défié 11 présidents américains, survécu à des centaines de complots pour l'assassiner. Il restera surtout comme l'un des acteurs majeurs de la guerre froide. François Hollande, Manuel Valls, mais aussi Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, tout ce petit monde devrait se retrouver à la primaire de la gauche. C'est l'avis exprimé ce matin par Claude Bartolone, le président de l'Assemblée, vous l'entendrez. Bernard Cazeneuve, ce matin à Strasbourg, le ministre de l'Intérieur a inspecté le dispositif de sécurité du marché de Noël qui a ouvert hier. David Hamilton s'est très probablement suicidé hier soir chez lui à Paris. C'est la piste privilégiée par les enquêteurs. Depuis plusieurs mois, il était accusé de viol ou d'agression sexuelle par plusieurs femmes. Rugby, la France affronte les All Blacks ce soir à 21h. Immense défi, un an après l'humiliation des Bleus en Coupe du Monde. Le temps, bonjour Valérie Quintin.
Bonjour.
Samedi bien gris, hein, surtout sur la moitié nord.
Oui, c'est vraiment la moitié nord qui va avoir le plus de grisailles tout l'après-midi. À la limite, l'extrême nord, vraiment. Le nord et le Pas-de-Calais pourront espérer quelques éclaircies. Pour les autres, un ciel très bâché, des petites pluies fines mais assez fréquentes. Beaucoup plus de soleil au sud, excepté dans le golfe du Lion. On a quelques entrées maritimes qui remontent d'ailleurs jusqu'aux portes de l'Aveyron et qui bifurquent aussi vers le midi toulousain. Les températures, quant à elles, commencent à baisser un petit peu. 9 degrés à Lille cet après-midi, 10 à Lyon, 11 à Paris, 12 à Nantes, 13 à Valence. 15 à Montpellier, 18 pour Ajaccio.
Merci Valérie. Jean-Dominique Sénard, la prochaine météo à 13h est pour vous. Vous n'oubliez pas, hein, on vous a donné le texte.
Je tâcherai
vous
de faire. Du temps. Je tâcherai de faire aussi bien.
A tout de suite.
Le journal inattendu sur RTL.
Il était un peu plus de minuit la nuit dernière à La Havane lorsque le président en exercice, Raúl Castro, a pris la parole à la télévision.
Querido pueblo de Cuba.
Cher peuple de Cuba, avec une profonde douleur, je suis ici pour informer notre peuple et nos amis du monde qu'aujourd'hui, 25 novembre 2016, à 22h29, le commandant en chef de la révolution cubaine Fidel Castro est décédé. Et conformément à sa volonté, sa dépouille sera incinérée ce samedi.
Voilà l'annonce officielle de la mort de Fidel Castro hier soir. On revient au direct, il est 6h de moins là, en ce moment à Cuba, 6h30 du matin, le pays se réveille. Beaucoup de Cubains apprennent la nouvelle de cette mort de Fidel Castro. Les autorités viennent de donner des détails sur les cérémonies à venir. D'abord, 9 jours de deuil sont décrétés. Une fois Fidel Castro incinéré, une procession avec ses cendres aura lieu pendant 4 jours dans tout le pays. Et ses funérailles nationales auront lieu dimanche prochain, 4 décembre, non pas à La Havane, la capitale, mais à Santiago de Cuba, la grande ville du sud. Pour les 11 millions de Cubains, la disparition du leader Maximo est un événement considérable, même s'il s'y préparait. Jean-Baptiste Bourgeon pour RTL vient de joindre Pedro Garcia. Il a 50 ans, il habite La Havane et c'est dans les rues du centre-ville hier soir qu'il a appris la nouvelle.
Pour le moment, on ne réalise pas la mort de Fidel. On est abasourdi simplement. C'est une grande partie de l'histoire de Cuba qui part comme ça. Là, de le voir partir, c'est dur, quoi. Simplement, c'était notre chef, quoi. Et on a perdu quelque chose, quoi. On a perdu une partie de notre histoire. On a perdu la personne qui a été pendant plus de 50 ans à la tête de l'État et de cette révolution. C'est une énorme perte, quoi. Il nous a donné la fierté d'être cubain. Même si on n'était pas révolutionnaire quelque part, il nous a donné la fierté d'être cubain. Pour nous, c'est plus important que tout. Tout à l'heure, ça va exploser un peu, quoi. Les gens ils vont commencer à s'alisser, à pleurer. Tous les Cubains ils vont être en deuil.
Voilà, Pedro Garcia, un franco-cubain de 50 ans, joint ce matin à La Havane par Jean-Baptiste Bourgeon, a noté qu'à quelques centaines de kilomètres de Cuba, en Floride, l'annonce de la mort de Fidel Castro a été accueillie dans la liesse. Les Cubains de Miami ont sorti le champagne, les casseroles et les tambours et ils ont défilé au cri de Cuba libre.
Avec la mort de Castro, c'est bien évidemment une page d'histoire qui se tourne pour les Cubains, évidemment, mais aussi pour le monde entier.
Et oui, puisqu'indépendamment de ses idées politiques, on peut dire que Castro, à l'échelle de l'histoire est l'équivalent d'un De Gaulle, d'un Churchill, d'un Roosevelt. Ses convictions révolutionnaires l'auront poussé à tenir son île d'une main de fer, à braver la superpuissance américaine. Bonjour Béatrice Adjage.
Bonjour.
La vie maintenant de Fidel Castro, l'homme, a tout simplement été exceptionnelle.
Cuba, La Habana, territorio libre de América.
En janvier 1959, après 25 mois de guérilla dans la Sierra Maestra, Fidel Castro, en treillis militaire, entre en libérateur à La Havane. Il a 33 ans. Ce fils de propriétaire terrien, éduqué par les jésuites, promet alors de rendre la terre aux paysans, met fin à la dictature de Batista. Mais il impose très vite à Cuba son pouvoir absolu à la tête du Parti communiste. Exécutions d'opposants, arrestations s'enchaînent. Les États-Unis considèrent d'emblée comme un ennemi ce marxiste-léniniste et la guerre froide qui oppose URSS et États-Unis à ce moment-là oblige Castro à choisir son camp. En 62, Nikita Khrushchev, le président soviétique, tente d'installer des missiles nucléaires à Cuba, dirigés directement contre les États-Unis à 200 km de là. En représailles, le président Kennedy décrète un embargo contre Cuba. L'île vit alors sous perfusion soviétique. Mais après la chute du mur de Berlin, c'est la misère. Et Castro, place de la Révolution, dans un de ses nombreux discours fleuves, vient demander à son peuple de nouveaux sacrifices.
Después de un año duro de sacrificio, ¡viva la revolución! ¡Sí por Cuba!
Alors après près de 60 ans de pouvoir, en 2006, cet homme qui inspirait bien des révolutionnaires et sur tous les continents, cède le pouvoir à son frère Raoul. Et c'est Raoul qui finit par accepter la main tendue de Barack Obama. Alors en dépit de la répression qui se poursuit toujours à Cuba, l'écrivain cubaine en exil, Zoé Valdés, se réjouit de la mort de Fidel Castro.
Oui, oui, tout à fait. C'est un moment que j'attendais depuis très longtemps et que les Cubains attendaient depuis très longtemps. Et je suis heureuse aujourd'hui.
Et ce matin, une jeune opposante cubaine, Johanna Sanchez, tweet « Il n'est plus là, il est parti, nous avons survécu ».
Jean-Dominique Sénard, PDG de Michelin, invité de ce journal inattendu. Quand vous avez appris en ouvrant la radio ce matin, vous étiez encore à Clermont-Ferrand hein, oui, avant de venir à Paris, que Castro était mort. Est-ce que vous vous êtes dit « bon débarras » ou autre chose ?
Non, il ne faut pas voir les choses comme ça. D'ailleurs, il faut toujours respecter les personnes. C'est pas du tout ma façon de voir les choses. En revanche, je me suis rappelé d'un seul coup beaucoup de souvenirs. Et je sais que quand j'étais étudiant, beaucoup de mes amis et collègues avaient des affiches de Guevara.
De Guevara, bien sûr. Moi, je l'avais dans ma chambre.
Voilà. Et puis, bien entendu, celle de Castro. Et il avait un charisme absolument incroyable, parce qu'il avait entraîné même des étudiants qui n'étaient pas forcément formés à l'admirer. Moi, j'avais quelques doutes, je ne vous cache pas, à l'époque. Et je ne vous surprendrai pas en vous disant que, même si je respecte la personne, je n'ai vraiment pas... beaucoup d'accroche avec sa politique économique ni sa politique sociale. Honnêtement, le pays n'était quand même pas un symbole de liberté.
Non.
Je veux te dire que d'une manière ou d'une autre, cette dernière trace d'un pays marxiste, il reste encore peut-être sous une certaine forme le Venezuela, mais est en train de disparaître. C'est, vous l'avez dit, une page qui tourne et c'est probablement une bonne chose. Le monde a d'autres problèmes, la mondialisation a tourné différemment, la fin de la guerre des blocs, il en est un peu le symbole. Je crois qu'effectivement, le monde est passé à autre chose.
On est passé à autre chose. Dans un instant, la suite de ce journal inattendu, avec notamment les réactions politiques après la mort de Castro, et Jacques Attali, l'ancien Sherpa de François Mitterrand, qui sera notre invité dans une poignée de minutes.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec Jean-Dominique Sénard et Bernard Poirette.
Jean-Dominique Sénard, le PDG de Michelin, je vous le rappelle, qu'on va retrouver dans un instant. La mort de Fidel Castro, l'une des dernières grandes figures du XXe siècle, a provoqué, bien sûr, une avalanche de réactions depuis 7 heures ce matin.
Oui, à commencer par les anciens chefs d'État, comme Mikhail Gorbatchev, mais aussi les nouveaux, comme Vladimir Poutine, qui parle du symbole d'une époque, comme le numéro 1 chinois, Xi Jinping, pour qui Castro vivra, je cite, éternellement. Nicolas Maduro, le président vénézuélien, appelle lui à poursuivre l'héritage du leader Maximo. Quant à François Hollande, qui est à Madagascar pour le sommet de la francophonie. Il a réagi ce matin. Écoutez.
Fidel Castro a été une grande figure du XXe siècle. Il y a eu aussi des désillusions, mais il a toujours voulu, avec fierté, défendre Cuba par rapport à toutes les pressions extérieures, et notamment à ce qu'était l'embargo qui frappait son pays. Et même si j'ai à plusieurs reprises dénoncé les manquements aux droits de l'homme, j'ai toujours considéré que l'embargo était une décision unilatérale inacceptable. Et au-delà de l'histoire, c'est l'avenir qui compte. Je veux, à l'occasion de la disparition de Fidel Castro, encore insister pour que l'embargo qui pénalise Cuba puisse être levé, définitivement levé, que Cuba puisse être pleinement... dans la communauté internationale, regardé comme un partenaire. Puisque je dois saluer la mémoire de Fidel Castro, je le fais. J'adresse toutes mes condoléances à Raoul Castro, qui est venu en visite d'État à Paris, au peuple cubain. Mais qu'aujourd'hui, c'est de l'ouverture et des échanges dont il faut parler.
François Hollande à Madagascar avec Vincent Derosier pour RTL.
Nous avons en ligne à l'instant un homme qui a connu Castro. Il l'a rencontré plusieurs fois alors qu'il travaillait aux côtés de François Mitterrand. C'est Jacques Attali. Monsieur Attali, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Dites-moi, quand vous entendez le président Hollande, est-ce que vous êtes sur cette ligne-là, notamment en matière d'embargo ? Est-ce qu'il faut impérativement, même si ça n'en prend pas le chemin avec Trump à la Maison-Blanche, que l'embargo soit totalement levé sur Cuba suite à la mort de Castro ?
Oui, bien sûr, parce que l'embargo a été en partie responsable de ce qui s'est passé à Cuba. Naturellement, Castro était à la fois un homme fascinant, fasciné lui-même par les États-Unis, mais c'était un horrible dictateur en soi. Mm-hmm. Personne ne lui avait demandé de faire fusiller ses opposants, de faire financer une partie de sa révolution par le trafic de la drogue et de mettre en prison les homosexuels. Mais malgré tout, l'embargo américain a aggravé terriblement la situation et l'a poussé à des extrêmes auxquels il n'aurait peut-être pas été sans cela. Donc aujourd'hui, il a, et d'ailleurs ça a toujours été le cas, la meilleure façon de mettre fin à la dictature castriste eût été de noyer Cuba sous les touristes américains, un petit peu d'ailleurs comme ce qui s'est passé en Espagne où la dictature franquiste à la mort de Franco a disparu sous le poids des, oui. De l'industrie du tourisme.
Alors ce qui est paradoxal tout de même, monsieur Attali, c'est qu'il était fasciné par les États-Unis, il jouait oui. très bien au baseball, etc. Et il les haïssait en même
le
temps.
Orange Bowl en permanence, oui.
C'est quand même particulier, non ? Vous qui l'avez rencontré.
Il était toujours, c'était un homme très séduisant, un intellectuel, un avocat, fasciné par l'Espagne. Il était espagnol, plus que quoi que ce soit, entièrement espagnol.
Oui.
Il était fasciné par les États-Unis, qu'il admirait profondément. Il avait écrit d'ailleurs, jeune collégien, une lettre à Roosevelt, je crois, ou Eisenhower, je ne sais plus. Il était très fasciné par les États-Unis, il était très nostalgique de ne pas pouvoir y aller. Et je pense que les États-Unis ont fait une grave erreur de ne pas tenter de le séduire. Ils ont tenté au début, puis après, c'est retourné. Forcément,
ils après, ils ont essayé de l'assassiner.
Ah oui, ça, ils ont essayé.
630 fois, apparemment.
Un nombre incalculable de fois.
Et donc, c'est une occasion manquée, parce que ça aurait pu tourner tout à fait différemment, donc.
Ça aurait pu tourner totalement différemment si Kennedy n'avait pas fait l'erreur de maintenir l'opération de laver des cochons, et si, voilà. Mais à partir du moment où l'engrenage était parti, où il était devenu un porte-avions soviétique, tout était mal installé. C'est comme ça, c'est l'avant-dernière dictature d'Amérique latine, il reste celle du Venezuela qu'il faut faire, qui elle se maquille en démocratie, mais qui est une dictature. Il reste la Corée du Nord, il en reste quelques-unes en Afrique, qu'il ne faut pas oublier, qui sont non. aussi d'horribles dictatures, dont nous, Français, sommes aussi largement responsables parce que nous les couvrons. Donc il faut progressivement mettre fin à cela. La mort de Castro s'inscrit dans cette longue évolution historique vers la démocratie du monde.
Merci beaucoup, Jacques Attali, donc, qui a travaillé longtemps aux côtés de François Mitterrand et rencontré plusieurs fois Fidel Castro. Il est 12h50 sur RTL. Dans un court instant, la suite du journal. Je vous rappelle que l'invité du journal inattendu aujourd'hui est Jean-Dominique Sénard, le président de Michelin, dont on parlera plus précisément et plus longuement, assurément, dans la deuxième demi-heure de ce journal. Pour l'heure, on continue.
Le journal inattendu de Jean-Dominique Sénard
avec Bernard Poirette sur RTL.
La suite du journal avec Philippe Robuchon. Philippe, en France, cette déclaration de Claude Bartolone, le président socialiste de l'Assemblée nationale, il veut que François Hollande et Manuel Valls participent tous les deux à la primaire socialiste en janvier.
Et oui, et ce n'est pas tout, il veut également qu'Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon participent à ce scrutin, alors qu'ils ont dit très clairement qu'ils ne voulaient pas y aller. Olivier Bost, vous êtes du service politique de RTL. On peut dire que le président de l'Assemblée attaque aujourd'hui franchement et publiquement le chef de l'État.
Oui, Claude Bartolone met ce matin un coup de couteau à François Hollande. Le président de l'Assemblée nationale pousse ouvertement la candidature de Manuel Valls contre le chef de l'État.
Depuis maintenant 15 jours, il semble y avoir un débat entre le président de la République et le Premier ministre, qu'ils aillent devant les militants de gauche et soient tous les deux aussi candidats à la primaire. Je ne veux pas une petite primaire, je veux une grande primaire.
Et ces propos ont été bien accueillis. Le député Jean-Marc Germain, un proche de Martine Aubry, voit d'un bon œil cette initiative.
Manuel Valls a cultivé un créneau qu'on appelle social-libéral. C'est un courant de pensée. Quand on veut incarner un courant de pensée, on a le droit de se présenter à nos primaires. Nos primaires sont faites pour ça.
Manuel Valls ne sera donc pas son candidat, pas celui non plus du député Olivier Faure, qui reste proche de François Hollande.
Moi, je ne participe pas à ce jeu-là, que je trouve délétère, mortifère. Et je ne comprends pas qu'on puisse être à la fois à tout partager dans un gouvernement et en même temps à considérer qu'on ne serait plus capable de faire campagne ensemble.
Dans ce petit jeu, François Hollande garde une carte. Il n'a dit à personne pour l'instant s'il serait candidat et quand. et surtout pas à Manuel Valls, son nouveau rival.
Olivier Bost du service politique de RTL. Je vous rappelle que l'autre primaire, celle de la droite et du centre, eh bien, se termine demain avec le second tour entre messieurs Fillon et Alain Juppé. Rendez-vous sur RTL, bien entendu, demain soir à partir de 18h avec le journal Le Magpol et à partir de 19h30 avec Marc-Olivier Fogiel et toutes les grandes signatures de RTL, Elisabeth Martichou, Alba Ventura, Alain Duhamel et Olivier Mazerolle.
Jean-Dominique Sénard, vous, le président de Michelin, ça vous a surpris, monsieur Fillon, largement en tête au premier tour?
Bon, je crois que tout le monde a été
surpris. Vous l'avez vu venir?
Tout le monde a été surpris. C'est l'ampleur qui m'a surpris, mais pas forcément le résultat. Parce que moi, je me souviens d'il y a déjà un an ou deux, à Clermont-Ferrand, j'avais toutes ces ondes qui ne partaient pas très loin, mais qui étaient émises par des personnes autour de moi qui disaient, comme ça, « Oh, ce monsieur Fillon, on l'aime bien ». Mais il n'osait pas en parler, c'est drôle, je m'amusais sur le phénomène politique, c'est pas à moi de prendre parti, mais c'était intéressant comme phénomène. Et au fond, les gens n'osaient pas dire qu'ils l'estimaient, parce qu'ils pensaient peut-être qu'ils allaient être tout seuls à le dire, et quand on croit qu'on est tout seul à dire quelque chose, on s'abstient. Voilà. Eh bien, croyez-moi, je crois que ce phénomène a joué à plein.
Bah, de toute évidence, là, vu l'avance qu'il a, ça doit avoir joué, sans aucun doute. Le marché de Strasbourg accueille ses premiers visiteurs ce week-end, Philippe Robuchon, et le ministre de l'Intérieur était sur place pour l'occasion.
Oui, Bernard Cazeneuve a inspecté le dispositif de sécurité mis en place, mesure drastique évidemment pour cette 446e édition. C'est plus que probable, David Hamilton s'est suicidé. Le photographe de 83 ans a été retrouvé mort à son domicile parisien hier soir, des médicaments à ses côtés. Une source de l'agence France Presse dit même qu'il a été retrouvé un sac sur la tête. David Hamilton était mondialement connu pour ses photos de jeunes filles dans les années 70. Plusieurs anciens modèles l'ont récemment accusé de viol lorsqu'elles étaient adolescentes. Parmi elles, Flavie Flamand, l'animatrice de RTL, qui se dit dévastée ce matin, en partie parce que la justice ne pourra jamais l'entendre. Je vous rappelle le verdict du procès de la petite Fiona. Les assises du Puy-de-Dôme ont condamné hier soir sa mère Cécile Bourgeon à 5 ans de prison. Cécile Bourgeon n'a été condamnée en fait que pour 4 délits, notamment non-assistance à personne en danger. Berkane Maclouf, en revanche, son compagnon, a été condamné à 20 ans de réclusion. Le sport, pour terminer, avec d'abord une grande soirée de rugby. Bonjour Jean-Michel Rascol.
Bonjour Philippe.
C'est un immense défi qui est proposé au 15 de France ce soir. L'équipe de Guy Noves se mesure au All Black, l'occasion de prouver que le rugby français est bien sur la voie de la guérison.
Évacuer le traumatisme, c'est l'un des objectifs de ce match. Traumatisme né de la raclée infligée par les Blacks il y a 13 mois en quart de finale de la Coupe du Monde. Vous vous souvenez du score 62-13. Le troisième ligne, Damien Chouli, ne veut pas pour autant parler de revanche.
C'est pas une revanche, c'est un match qui sera dur contre les champions du monde en titre, mais surtout un gros match à jouer. 80 minutes où il va falloir surtout rien lâcher et jouer en équipe, défendre en équipe, tout faire en équipe et pas compter l'énergie qu'on va mettre dans cette bataille. Il ne faut pas les regarder avec des grands yeux ronds, sinon ça ne sert à rien de jouer.
Et voilà, il ne faut pas les regarder avec de grands yeux ronds. Et pour leur dernier match en Europe, les Blacks, eux, aligneront leur meilleure équipe, conscient que le 15 de France n'est jamais aussi fort que lorsqu'il est challenger. L'attaquant All Black de Christchurch, Ryan Crotty, au micro de Nicolas Georgerot.
C'est un défi vraiment excitant. Ils vont vouloir jouer le mieux possible et on sait qu'il y a du talent, donc ça va être un gros match. On est très excités, mais on n'a pas peur.
Voilà, la France n'a plus battu les All Blacks à domicile depuis 16 ans.
Merci Jean-Michel, on vous retrouve à 21h ce soir pour le coup d'envoi de ce France-Nouvelle-Zélande. Rendez-vous d'ailleurs un peu plus tôt pour le multiplex rugby et foot à 19h30 sur RTL, puisqu'il y a la 14e journée de Ligue 1. Monaco-Marseille à 17h, les autres matchs à 20h. Hier, Rennes a battu Toulouse 1-0.
Bernard. Merci beaucoup Philippe Robuchon. Il est 12h58 exactement sur RTL. Merci d'écouter le journal inattendu de Jean-Dominique Sénard, qui est le président de Michelin et qui a eu l'immense gentillesse de patienter finalement depuis 12h30 à cause de Castro, qui est mort hier soir à La Havane à l'âge de 90 ans. Mais maintenant, je le réintègre dans ses droits pleins d'invité du journal inattendu. Et juste après la pause, à lui la parole. À tout de suite.
Le journal inattendu sur RTL.